Note sur le livre du Deutéronome par C.H. McIntosh, édition 1963. Préface. On ne saurait donner trop de valeur et d'importance à la parole de Dieu dans le moment actuel. On en attaque l'autorité et l'intégrité de tous côtés et de toute espèce de manière. Si les fondements sont détruits, que fera le juste? Psaume 11, verset 3. Les pensées et les principes de l'incrédulité ne sont plus limités à quelques esprits spéculateurs, comme c'était le cas il y a 50 ans, mais ils sont maintenant adoptés par un grand nombre de ceux qui devraient être les fidèles gardiens du christianisme et les défenseurs de la Bible en tant que révélés de Dieu. De cette manière, une multitude d'âmes simples sont induites en erreur. Si le discours que l'on vient d'entendre a été agréable à l'oreille, les auditeurs sont satisfaits, et la conscience n'étant pas mise en activité, peu de personnes songent à le juger d'après la parole de Dieu. Mais quelle sera, en présence de l'éternité, la condition d'âmes immortelles sous un tel ministère? Sur qui repose le poids de la responsabilité? De belles théories ne réveilleront jamais une âme endormie dans le péché. Il faut que le pécheur perdu soit mis en présence de la simple parole de Dieu et des réalités solennelles de l'éternité. Là, tout est clair, positif et absolu. La parole du Seigneur demeure éternellement. 1 Pierre 1, verset 25.
Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est cette parole qui vous a été annoncée.
Le livre du Deutéronome est bien propre à contrebalancer le relâchement et le vague de l'enseignement de nos jours. Le législateur juif y met avec instance les paroles de l'Éternel sur le cœur d'Israël. Ce n'est pas un livre de cérémonie, mais d'exhortations au peuple à garder les commandements, les statuts et les jugements de l'Éternel. Une obéissance et une soumission implicite à la volonté révélée de Dieu sont, en tout temps, le premier devoir de l'homme. Moïse parle aux enfants d'Israël comme un père. Il les exhorte de la manière la plus tendre et la plus touchante. « Et maintenant, leur dit-il, écoutez les statuts et les ordonnances que je vous enseigne. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien, afin de garder les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous commande. Et encore, tu les liras comme un signe sur ta main, et elles te seront pour frontaux entre les yeux, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Deutéronome 4, versets 1 et 2, et 6, versets 8 et 9. La prospérité du peuple individuellement et comme nation dépendait de leur fidèle observance de ces lois si souvent répétées. Les négligés, c'était attirer sur eux le déplaisir et les châtiments du Dieu d'Israël. Le lecteur trouvera dans ces pages l'ample développement et l'application pratique de ces diverses exhortations et de ces avertissements. L'auteur ne s'est pas borné à ce qu'enseigne le Deutéronome, mais il a développé ce qu'il suggère. De cette manière, nous y rencontrerons toutes les grandes vérités du christianisme et y trouverons des applications aux chrétiens, à la famille et à l'Église de Dieu. Veuille le Seigneur, dans sa bonté, se servir de ces pages pour la gloire de son nom, l'avancement de son peuple et le salut éternel de beaucoup de précieuses âmes. A.M. Introduction. Le caractère de ce livre est tout aussi distinct que celui de chacune des quatre autres portions du Pentateuque. À juger d'après le titre du livre, nous pourrions supposer qu'il n'est qu'une répétition des précédents. Mais ce serait une erreur. Dieu ne se répète jamais, ni dans sa parole, ni dans ses œuvres. Où que nous discernions notre Dieu, que ce soit dans les pages sacrées ou dans le vaste champ de la création, nous voyons une variété infinie, une plénitude divine, un plan arrêté, et notre faculté de discerner et d'apprécier ces choses sera en proportion de notre spiritualité. Le fait est que, du commencement à la fin du volume inspiré, il ne se trouve pas une phrase superflue, un mot de trop, ni un argument qui n'ait sa signification propre et son application directe. Si nous ne voyons pas cela, nous avons encore à apprendre quelle est la force, la profondeur et la signification de ces paroles. Toute écriture est inspirée de Dieu, de Timothée 3, verset 16. Paroles précieuses, plût à Dieu qu'elles fussent mieux comprises de nos jours. Le relâchement à cet égard se répand d'une manière effrayante dans l'Église professante. En maints endroits, il est de bon ton de se moquer de la foi à une entière inspiration. On considère cela comme un signe d'ignorance ou d'enfantillage. On pense faire preuve d'un grand savoir et d'un esprit très développé en critiquant le précieux volume de Dieu et en y trouvant des imperfections. Les hommes se permettent de porter leur jugement sur la Bible comme si elle n'était qu'une composition humaine. Au fond, c'est Dieu lui-même qui les juge. Le résultat de tout cela est l'obscurité et la confusion les plus complètes, soit pour ces savants docteurs eux-mêmes, soit pour ceux qui les écoutent. Quelle sera la destinée éternelle de tous ceux qui auront à répondre devant le tribunal du Christ pour avoir blasphémé la parole de Dieu et égaré un si grand nombre d'âmes par leur enseignement infidèle? Le livre du Deutéronome occupe une place tout à fait distincte dans le volume inspiré. Les paroles par lesquelles il s'ouvre suffisent pour le prouver. Ce sont ici les paroles que Moïse dit à tout Israël, en deçà du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suf, entre Paran et Tophel, Laban, Hatzéroth, et dit Zahab, verset 1. Les Israélites étaient arrivés sur la rive orientale du Jourdain. Ils allaient entrer dans le pays de la promesse. Leur pèlerinage dans le désert était près de finir, comme nous l'apprend le verset 3. Et il arriva en la 40e année, au 11e mois, le premier jour du mois, que Moïse parla aux fils d'Israël, selon tout ce que l'Éternel lui avait commandé pour eux. Ainsi, non seulement nous avons l'époque et le lieu indiqués avec une précision divine, mais nous apprenons encore, par les paroles que nous venons de citer, que les communications faites au peuple dans les plaines de Moab étaient bien loin d'être une répétition de ce que nous avons trouvé dans nos études des livres de l'Exode, du Lévitique et des Nombres. Le verset 69 du chapitre 28 de notre livre nous en donne encore une preuve évidente. Ce sont là les paroles de l'alliance que l'Éternel commanda à Moïse de faire avec les fils d'Israël dans le pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait faite avec eux à Horeb. Le lecteur remarquera qu'il est question de deux alliances, l'une en Horeb, l'autre au pays de Moab. Or nous verrons que cette dernière, loin d'être une répétition de la précédente, en est aussi distincte que possible. Le livre du Deutéronome a une place qui lui est propre. Le but qu'il se propose est aussi distinct que possible. Du commencement à la fin, il cherche à inculquer la grande leçon de l'obéissance, et cela non seulement quant à la lettre, mais dans un esprit d'amour et de crainte, d'une obéissance fondée sur des relations d'intimité, d'une obéissance stimulée par le sentiment d'obligations morales les plus positives. Le vieux législateur, le fidèle et bien-aimé serviteur de l'Éternel, allait prendre congé de la congrégation. Il s'en allait au ciel, et les enfants d'Israël étaient sur le point de traverser le Jourdain. C'est ce qui rend ces dernières exhortations solennelles et touchantes au suprême degré. Ils passent en revue toute leur vie dans le désert. Ils rappellent les circonstances et les phases de leurs 40 années de pèlerinage d'une manière bien propre à toucher le cœur. Ces précieux discours possèdent un charme incomparable, résultant autant des circonstances au milieu desquelles ils furent prononcés que de l'importance de leur divin sujet. Ils s'adressent à nous avec autant d'à-propos qu'à ceux auxquels ils étaient destinés. N'en est-il pas ainsi de toute l'Écriture? Ne sommes-nous pas sans cesse frappés de sa merveilleuse puissance d'adaptation à nos propres circonstances et à notre état d'âme? Elle nous parle avec le même à-propos et la même fraîcheur que si elle était dictée aujourd'hui même et exprès pour nous. Rien ne ressemble à l'Écriture. Prenez un écrit humain de la même date que le Deutéronome. Si vous pouviez trouver un volume quelconque écrit il y a 3000 ans, que verriez-vous? Une relique curieuse de l'Antiquité, une chose digne d'être placée au musée britannique à côté d'une momie égyptienne, mais n'ayant aucune application à nous ou à notre temps. Un document suranné, sans utilité pour nous, ne traitant que d'un ordre de choses et d'un état de la société, depuis longtemps passé et tombé dans l'oubli. La Bible, au contraire, est le livre du jour présent. C'est le livre même de Dieu, sa parfaite révélation. C'est sa propre voix, s'adressant à chacun de nous. C'est un livre pour tous les âges, pour toutes les classes, pour toutes les conditions. Elle parle un langage si simple qu'un enfant peut le comprendre, et en même temps si profond que la plus vaste intelligence ne peut l'épuiser. Avant tout, elle va droit au cœur. Elle touche les sources les plus cachées de notre être moral. Elle nous juge complètement. En un mot, comme nous le dit l'apôtre inspiré, elle est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4, verset 12. Remarquez encore l'ampleur merveilleuse de ses conceptions. Elle s'occupe aussi minutieusement des coutumes, des mœurs et des maximes du 19e siècle de l'ère chrétienne que de celles des premiers âges de la vie humaine. Elle montre une connaissance parfaite de l'homme à tous les degrés de son histoire. La vie de l'homme, dans toutes les périodes de son développement, est décrite de main de maître dans ce volume admirable que notre Dieu a composé pour notre instruction. Quel privilège de posséder un tel livre, d'avoir entre les mains une révélation divine, de posséder l'histoire donnée par Dieu du passé, du présent et de l'avenir. Mais ce livre juge l'homme, sa conduite, son cœur. Il lui dit la vérité sur tout ce qui le concerne. Pour cette raison, l'homme n'aime pas le livre de Dieu. Un homme inconverti préférera de beaucoup un journal ou un roman à la Bible. Il aimera mieux le rapport d'un procès criminel qu'un chapitre du Nouveau Testament. Pour cette raison aussi, Les incrédules ont de tout temps travaillé fort et ferme pour découvrir des imperfections et des contradictions dans les saintes Écritures. Les ennemis de la Bible ne se trouvent pas seulement dans les classes vulgaires et démoralisées, mais parmi les gens instruits, cultivés, de bonne société. Tout comme il en était du temps des apôtres, de méchants hommes de la populace et des femmes de qualité qui servaient Dieu, trouvèrent un point sur lequel ils étaient d'accord, savoir le rejet de la parole de Dieu et de ceux qui la prêchaient fidèlement. Comparez Actes chapitre 13, verset 50, avec chapitre 17, verset 5.
Acte 13, verset 50, « Mais les Juifs excitèrent les femmes de qualité qui servaient Dieu et les principaux de la ville, et ils suscitèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. » Acte 17, verset 5, « Mais les Juifs, pleins de jalousie, ayant pris quelques méchants hommes de la populace et ayant fait un amas de peuple, troublèrent la ville. » Et ayant assailli la maison de Jason, ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener au peuple.
De même, nous voyons des hommes qui diffèrent sur presque tous les autres sujets, être d'accord dans leur opposition positive à la Bible. On laisse les autres livres tranquilles. Les hommes ne se donnent pas la peine de chercher les défauts dans Virgile, Horace, Homère ou Hérodote. Mais ils ne peuvent supporter la Bible parce qu'elle les met à nu et leur dit la vérité sur eux-mêmes et sur le monde auquel ils appartiennent. N'en fut-il pas exactement de même pour la parole vivante, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre? Les hommes le haïssaient parce qu'il leur disait la vérité. Son ministère, ses paroles, sa conduite, sa vie entière étaient un témoignage contre le monde. De là son opposition amère et persistante. D'autres pouvaient passer tranquillement leur chemin, mais lui était surveillé, épié, persécuté à chaque pas qu'il faisait. Les conducteurs et les docteurs du peuple cherchaient à l'enlacer dans ses paroles, Matthieu 22, verset 15, afin d'avoir un prétexte pour le livrer au gouverneur.
Matthieu 22, verset 15, « Alors les pharisiens vinrent et tinrent conseil pour l'enlacer dans ses paroles. »
Ainsi en fut-il durant sa vie merveilleuse. Puis, lorsque l'être béni fut cloué à la croix entre deux malfaiteurs, on laissa ces derniers en paix. On ne les accabla point d'injures, les principaux sacrificateurs et les gouverneurs ne hochez pas la tête en se raillant d'eux. Non, toutes les insultes, toutes les moqueries, toutes les paroles cruelles et sans pitié étaient à l'adresse du divin crucifié. Il est de toute importance que nous comprenions bien d'où provient réellement l'opposition à la parole de Dieu, que ce soit à la parole vivante ou à la parole écrite. Le diable est la parole de Dieu d'une parfaite haine. Il se sert des savants incrédules pour écrire des livres destinés à prouver que la Bible n'est pas la parole de Dieu, qu'elle ne saurait l'être, vu qu'il s'y trouve des erreurs et des contradictions, et qu'il y a dans l'Ancien Testament des lois, des institutions, des coutumes et des cérémonies indignes d'un Dieu bon et miséricordieux. À cette catégorie d'arguments, nous n'avons qu'une courte réponse à faire. De tous ces savants incrédules, nous disons simplement, ils n'entendent ni ce qu'ils disent, ni ce sur quoi ils insistent. 1 Timothée 1, verset 7. Il se peut qu'ils soient très instruits, très savants, de profonds philosophes versés dans la littérature, très compétents pour trancher une question difficile, pour discuter un sujet scientifique. Il se peut encore qu'ils soient très aimables, estimables dans leur vie privée et respectés au dehors, mais en tant qu'inconvertis et ne possédant pas l'Esprit de Dieu, ils sont parfaitement incapables de porter un jugement à l'égard des saintes Écritures. Si quelqu'un, ignorant l'astronomie, se permettait de juger les principes du système de Copernic, ces mêmes hommes dont nous parlons le déclareraient totalement incompétent et dédaigneraient de l'écouter. En un mot, personne n'a le droit d'émettre une opinion sur un sujet qui lui est inconnu. C'est là un principe reconnu de chacun, et par conséquent son application au cas qui nous occupe ne peut pas être mise en question. L'apôtre nous dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. 1 Corinthiens 2, verset 14. Voilà qui est concluant. Il parle de l'homme dans son état naturel, quelque cultivé qu'il puisse être. Il ne parle pas d'une certaine classe d'hommes, mais simplement de l'homme inconverti, de l'homme ne possédant pas l'Esprit de Dieu, de l'homme naturel, que ce soit un savant philosophe ou un pauvre ignorant. Il ne peut connaître les choses qui sont de l'Esprit de Dieu. Comment donc peut-il porter un jugement sur la parole de Dieu? Comment peut-il se permettre de décider de ce qui est digne de Dieu et de ce qui ne l'est pas? Et s'il a l'audace de le faire, qui devrait l'écouter? Personne. Ses arguments sont sans fondement, ses théories misérables, ses livres de la pauvre maculature. D'après le principe invoqué plus haut, nous écartons la totalité des écrivains rationalistes. Un aveugle, discutant sur l'ombre et la lumière, aurait plus de droit à être écouté qu'un homme inconverti discutant sur l'inspiration des Écritures. Des savants peuvent, sans doute, être appelés à donner leur opinion sur le sens de tel ou tel passage, mais ceci est tout à fait différent du fait de prononcer un jugement sur la révélation que Dieu nous a donnée. Nous maintenons que nul homme ne peut le faire. Ce n'est que par l'Esprit, qui a lui-même inspiré les saintes Écritures, que celles-ci peuvent être comprises et appréciées. Il nous faut recevoir la parole de Dieu sur le pied de sa propre autorité. Si l'homme peut la juger et en raisonner, elle n'est plus du tout la parole de Dieu. Dieu nous a-t-il donné une révélation, oui ou non? S'il nous l'a donnée, elle doit être parfaite à tous égards et comme telle au-dessus de tout jugement humain. L'homme n'est pas plus capable de juger l'Écriture qu'il ne l'est de juger Dieu. C'est l'Écriture qui juge l'homme, et non l'homme l'Écriture. Rien n'est plus méprisable que les livres écrits par les incrédules contre la Bible. Chaque page, chaque ligne prouve la vérité de ces paroles de l'apôtre. L'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. 1 Corinthiens 2, verset 14. Leur grossière ignorance du sujet qu'ils cherchent à traiter n'est égalée que par leur présomption et leur manque de respect. Les livres humains ont la chance d'un examen impartial, mais quand on s'approche du précieux livre de Dieu avec la certitude préconçue qu'il n'est pas une révélation divine, c'est parce que l'on a écouté les incrédules qui nous disent que Dieu ne peut pas nous donner une révélation écrite de sa volonté. Que c'est étrange! Les hommes peuvent nous révéler leurs pensées, et les incrédules l'ont assez fait, mais Dieu ne le pourrait pas. Pourquoi donc Dieu ne pourrait-il pas révéler sa volonté à ses créatures? Pour la seule raison que les incrédules le veulent ainsi. La question posée par le serpent ancien dans le jardin d'Éden, il y a près de 6000 ans, a été répétée de siècle en siècle par toute espèce de sceptique, de rationaliste et d'incrédule. Quoi, Dieu a dit? Nous répondons avec bonheur, oui, béni soit son saint nom, Il a parlé, il nous a parlé, il a révélé sa volonté, il nous a donné les saintes Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Et encore, car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons espérance. 2 Timothée 3, versets 16 et 17, et Romains 15, verset 4. Le Seigneur soit béni pour de telles paroles. Elles nous assurent que toute l'Écriture est donnée de Dieu, et que toute l'Écriture nous est donnée. Précieux lien entre l'âme et Dieu. Dieu a parlé à nous. Sa parole est un rocher contre lequel toutes les vagues de l'incrédulité se brisent dans leur misérable impuissance, le laissant debout dans sa puissance divine et éternelle. Rien ne peut ébranler la parole de Dieu. Toutes les puissances combinées de la terre et de l'enfer ne peuvent l'affaiblir. Elle reste immuable dans sa gloire morale, en dépit de tous les assauts de l'ennemi, siècle après siècle. Éternel, ta parole est établie à toujours dans les cieux. Psaume 119, verset 89. Que nous reste-t-il à faire? Simplement ceci. J'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Psaume 119, verset 11. C'est là le secret de la paix. Le cœur est lié au cœur même de Dieu par le moyen de sa précieuse parole. Pour celui qui a vraiment appris, par grâce, à croire à la parole de Dieu et à se reposer sur l'autorité de l'Écriture sainte, tous les livres qui ont jamais été dictés par l'incrédulité sont sans aucune valeur. Ils montrent l'ignorance et la coupable présomption de leurs auteurs. Mais quant à l'Écriture, il la laisse ce qu'elle a toujours été et sera toujours, fondée dans les cieux, aussi ferme que le trône de Dieu. Une note en bas de page. En faisant allusion aux écrivains incrédules, nous devons nous rappeler que les plus dangereux sont ceux qui s'appellent chrétiens. Autrefois, quand on prononçait le mot « incrédule », on pensait immédiatement à Voltaire ou à Penn. Maintenant, hélas, ce mot peut s'appliquer à maints docteurs et ministres de l'Église professante. Quelle chose effrayante! Reprise de l'étude. Les assauts des incrédules ne peuvent ébranler ni le trône de Dieu, ni sa parole. Béni soit son nom, ils ne peuvent non plus ébranler la paix qui remplit le cœur de celui qui se repose sur ce fondement inattaquable. Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi, et pour eux il n'y a pas de chute. Psaume 119, verset 165. La parole de notre Dieu demeure à toujours. Ésaïe 40, verset 8. Or c'est cette parole qui vous a été annoncée. 1 Pierre 1, verset 25. Nous avons ici de nouveau le même précieux lien. La parole qui nous a atteints sous forme de la bonne nouvelle est la parole de l'Éternel qui subsiste à toujours et, par conséquent, notre paix et notre salut sont aussi stables que la parole sur laquelle ils sont fondés. Si toute chair est comme l'herbe et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe, alors de quelle valeur seront les arguments des incrédules? Ils n'ont pas plus de valeur que l'herbe séchée ou la fleur fanée, et c'est ce qu'ils reconnaîtront tôt ou tard. Quelle coupable folie que de contester contre la parole de Dieu, contre la seule chose au monde qui puisse donner paix et consolation à de pauvres cœurs fatigués. Contre cette parole qui apporte la bonne nouvelle du salut aux pauvres pécheurs perdus et qui l'apporte de la part de Dieu. On nous demandera peut-être, comment savons-nous que le livre que nous appelons la Bible est bien la parole de Dieu? Question qui a troublé beaucoup d'âmes. Notre réponse est bien simple. Celui qui nous a donné ce livre précieux peut aussi nous donner la certitude qu'il est de lui. Le même esprit qui a inspiré les divers écrivains des Saintes Écritures peut nous faire comprendre que ces Écritures sont la voix même de Dieu s'adressant à nous. Mais il nous faut l'esprit pour cela, car, comme nous l'avons déjà vu, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. 1 Corinthiens 2, verset 14. Si le Saint-Esprit ne nous enseigne pas avec certitude que la Bible est la parole de Dieu, aucun homme ou assemblée d'hommes ne pourront le faire. Et, d'un autre côté, si l'Esprit nous donne cette assurance bénie, nous n'avons besoin d'aucun témoignage humain. L'ombre d'un doute sur cette si importante question serait un véritable tourment. Mais qui peut nous donner la certitude? Dieu seul. Si tous les hommes sur la terre étaient d'accord pour reconnaître l'autorité des Saintes Écritures, tous les conciles qui se sont jamais assemblés, tous les docteurs et tous les pères qui ont enseigné ou écrit en faveur de l'inspiration plénière. Si l'Église universelle, c'est-à-dire chaque dénomination de la chrétienté, donnait leur assentiment à cette vérité que la Bible est vraiment la parole de Dieu, en un mot, si nous avions toute l'autorité humaine qu'il soit possible d'avoir par rapport à la divinité de cette parole, tout cela serait insuffisant comme fondement de certitude. Et si notre foi était basée sur une telle autorité, elle serait sans valeur aucune. Dieu seul peut nous donner la certitude qu'il a parlé dans sa parole, et quand il la donne, tous les arguments, tous les raisonnements, toutes les chicanes des incrédules anciens et modernes ne sont que comme la fumée qui s'échappe d'un toit, ou la poussière soulevée par le vent. Le vrai croyant les repousse comme autant de choses sans valeur, et se repose en paix sur cette révélation que notre Dieu a daigné nous donner. Prenons un exemple. Un père écrit une lettre à son fils à Canton, lettre toute remplie de l'affection et de la tendresse de son cœur de père. Il lui parle de ses affaires et de ses projets, de tout ce qu'il pense pouvoir intéresser le cœur d'un fils, de tout ce que lui suggère son cœur de père. Le fils passe au bureau de poste à Canton pour demander s'il n'y a pas une lettre de son père. Un employé lui répond qu'il n'y a pas de lettre, que son père n'a pas écrit et ne saurait écrire, ne saurait communiquer ses pensées par ce moyen, que c'est folie à lui de le croire. Un autre employé s'avance et lui dit « Oui, il y a bien ici une lettre pour vous, mais vous ne pourriez la comprendre. Elle vous est tout à fait inutile, et même elle ne vous ferait que du mal, car vous n'êtes pas capable de la lire convenablement. Laissez-la entre nos mains, et nous vous en expliquerons les portions que nous considérerons pouvoir vous être utiles. » Le premier de ces deux employés représente l'incrédulité, le second la superstition. L'un et l'autre voudraient priver le fils de la lettre si longtemps désirée, des précieuses communications venant du cœur de son père. Mais quelle serait sa réponse à ces indignes employés? Une réponse très brève et allant droit au but, nous pouvons en être certains. Au premier, il dirait « Je sais que mon père peut me communiquer ses pensées dans une lettre et qu'il l'a fait. » Il dirait au second « Je sais que mon père peut me faire comprendre sa lettre beaucoup mieux que vous ne le pouvez. » Et à tous deux, il dirait d'un ton ferme et décidé « Donnez-moi à l'instant la lettre de mon père. Elle m'est adressée et personne n'a le droit de me la refuser. » C'est ainsi qu'un chrétien au cœur simple devrait répondre à l'audacieuse incrédulité et à l'ignorante superstition ces deux principaux agents du diable en nos jours. Mon Père m'a communiqué ses pensées, et il peut me faire comprendre ses communications. Toute écriture est inspirée de Dieu, et toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction. Réponse admirable à tous les ennemis de la précieuse révélation de Dieu, qu'ils soient rationalistes ou ritualistes. Nous ne chercherons pas à nous excuser auprès du lecteur pour cette longue introduction au livre du Deutéronome. Nous sommes trop heureux de cette occasion d'apporter notre faible témoignage à la grande vérité de la divine inspiration des saintes Écritures. Nous sentons que c'est notre devoir, comme aussi notre grand privilège, d'insister auprès de tous ceux qui nous liront sur l'immense importance, sur l'absolue nécessité d'une entière certitude à cet égard. Nous devons à tout prix maintenir fidèlement l'autorité divine et par conséquent la suprématie absolue de la parole de Dieu en tout temps, en tout lieu et pour tous les besoins. Nous devons croire que l'Écriture ayant été donnée de Dieu est complète dans le sens le plus élevé et le plus large de ce mot, qu'elle n'a pas besoin d'une autorité humaine pour l'accréditer, ni d'une voix humaine pour la vanter. Elle parle pour elle-même et se recommande elle-même. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire et d'obéir, non de raisonner ou de discuter. Dieu a parlé. Notre devoir est d'écouter et de lui accorder une respectueuse et implicite obéissance. C'est là le grand point fondamental du livre du Deutéronome, comme nous le verrons par la suite de notre étude. Et il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'Église de Dieu un moment où il fut plus urgent d'insister auprès de la conscience humaine sur la nécessité d'une obéissance implicite à la parole de Dieu. Hélas, elle ne se fait que peu sentir. La plupart des chrétiens professants semblent croire qu'ils ont le droit de penser par eux-mêmes, de suivre leur propre raison, leur propre jugement ou leur conscience. Ils ne croient pas que la Bible soit un livre indicateur divin et universel. Ils pensent que, dans beaucoup de choses, il nous est permis de choisir nous-mêmes. De là les innombrables partis, sectes, confessions et écoles théologiques. Si l'on accorde l'autorité aux opinions humaines, alors il va sans dire qu'un homme a autant de droits qu'un autre à penser ce qu'il veut. Et c'est ainsi que l'Église professante est devenue un proverbe et un synonyme de division. Quel est le souverain remède pour ce mal si largement répandu? C'est une soumission absolue et complète à l'autorité de l'Écriture sainte. Ce n'est pas l'homme allant à l'Écriture afin de voir ses opinions et ses idées confirmées. C'est l'homme allant à l'Écriture pour y trouver les pensées de Dieu sur toute chose et inclinant tout son être moral devant l'autorité divine. Tel est le besoin pressant de l'époque actuelle. Il y aura sans doute des divergences dans nos appréciations ou nos explications des Écritures. Mais ce sur quoi nous insistons tout particulièrement auprès de tous les chrétiens, c'est l'attitude du cœur exprimée dans ces précieuses paroles du psalmiste « J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pèche pas contre toi ». Psaume 119, verset 11. Nous pouvons être sûrs que cela est agréable à Dieu, car il dit « C'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé, et à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. » Ésaïe 66, verset 2. C'est là le secret de toute sécurité morale. Notre connaissance des Écritures peut être fort limitée, mais si notre respect pour elles est profond, nous serons préservés de 1000 erreurs et nous croîtrons dans la connaissance de Dieu, de Christ et de la parole écrite. Nous puiserons avec bonheur à ces sources vives et inépuisables, et nous nous promènerons avec ravissement dans ces verts pâturages que la grâce ouvre si généreusement au troupeau de Christ. C'est ainsi que la vie divine sera entretenue et fortifiée. La parole de Dieu deviendra de plus en plus précieuse à nos âmes, et le puissant ministère du Saint-Esprit nous en fera connaître toujours mieux la profondeur, la plénitude, la majesté et la gloire morale. Nous serons entièrement délivrés des influences desséchantes des systèmes théologiques, quels qu'ils soient. Nous pourrons dire aux promoteurs de toutes les écoles de théologie sous le soleil que, quels que soient les éléments de vérité qu'ils puissent trouver dans leur système, nous les possédons avec une perfection divine dans la parole de Dieu. Ni tordus, ni tourmentés afin de les faire entrer dans un système, mais étant tous à leur vraie place dans le vaste cercle de la révélation divine, dont le centre éternel est la personne bénie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.